Radio Prague, les informations.
Dobrý den, bonjour, voici les titres. Le chef de la diplomatie tchèque félicite son nouvel homologue britannique Dominic Raab. La loi facilitant la naturalisation des descendants d'émigrés tchécoslovaques a été adoptée par le Sénat. Et puis du foot avec des clubs tchèques qui n'ont pas brillé dans le tour préliminaire de la Ligue Europa. Tomáš Petříček, le ministre tchèque des Affaires étrangères, a félicité jeudi Dominic Raab, nommé à la tête de la diplomatie britannique par le nouveau Premier ministre Boris Johnson. Je lui souhaite de la force et du courage pour mener à bien le Brexit de manière à être dans l'intérêt de tous nos citoyens, a indiqué jeudi Tomáš Petříček sur les réseaux sociaux. À noter que le père de Dominic Raab a fui la Tchécoslovaquie dans son enfance avec sa famille d'origine juive en 1938 vers l'Angleterre. Le Sénat a adopté un projet de loi qui faciliterait l'obtention de la citoyenneté tchèque pour les enfants et petits-enfants d'exilés de la Tchécoslovaquie communiste. La législation concerne les proches des Tchèques déchus de leur nationalité tchécoslovaque avant 1989. Les candidats doivent fournir une documentation détaillant quand et comment leurs parents ou grands-parents ont perdu la nationalité pour être éligibles. La nouvelle législation doit encore être signée par le président de la République. Selon le ministère de l'Intérieur, les modifications apportées à la loi pourraient ouvrir la voie à des centaines de demandes, notamment à des familles d'anciens citoyens tchécoslovaques vivant au Venezuela. Dans le cadre du deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa, les clubs tchèques n'ont pas particulièrement brillé jeudi. On parle football. Jablonec s'est incliné 2-1 contre le Pionik Erevan en Arménie, tandis que Mladá Boleslav n'a pu faire qu'un match nul 1-1 à domicile face aux Kazakhs du Ordabasi Chimkent. Les matchs retour se dérouleront à Jablonec et au Kazakhstan jeudi prochain. Pour les vainqueurs, il y aura ensuite un troisième tour, un troisième et dernier tour préliminaire pour cette Ligue Europa. On parle culture maintenant avec du cinéma et le film du réalisateur tchèque Václav Marhoul, Nabarvené ptáče, The Painted Bird en anglais, avec l'acteur Harvey Keitel, entre autres, qui sera en compétition officielle du Festival de Venise, on le sait depuis ce jeudi. Avec ce réalisateur tchèque, d'autres grands noms du cinéma figurent dans cette compétition, dont Roman Polanski, Atom Egoyan, Steven Soderbergh ou Robert Guédiguian. Le dernier film tchèque officiellement sélectionné à Venise était un film de Jiří Menzel, ça remonte à l'année 1994. La célèbre Mostra de Venise se tiendra du 28 août au 7 septembre prochain. Un mot sur la météo pour finir, avec toujours des températures assez élevées, un début de week-end encore chaud et un mercure autour de 30 degrés, avec cela dit des averses, voire des orages prévus en fin de journée samedi, notamment dans l'est du pays, en Moravie. Voilà pour l'essentiel des infos. Pour plus d'infos, c'est évidemment sur notre site www.radio.cz. Et dans une poignée de secondes, c'est Colin Gruel pour la suite de notre programme en français.
Faits et événements en République tchèque.
Merci à vous Alexis Rosenzweig et bonjour à toutes et à tous. Suite et fin de ce programme en français dont voici le sommaire. Le ministre français de l'agriculture Didier Guillaume en visite à Prague, il a répondu aux questions d'Alexis Rosenzweig. Le troisième épisode de notre série estivale consacrée aux piscines tchèques, Anna Kubišta nous emmène à Lulec. Et puis votre rendez-vous du vendredi, la revue de presse signée Alena Gebeltova. Bienvenue. Le ministre français de l'agriculture Didier Guillaume était donc à Prague ce jeudi pour rencontrer son homologue tchèque Miroslav Toman. Le prochain budget de la politique agricole commune, la PAC, figurait parmi les principaux sujets entre les deux hommes qui refusent qu'il soit revu à la baisse. Mais quelques sources de divergences subsistent, notamment dues au fait que les exploitations agricoles ont une surface moyenne plus importante en Tchéquie qu'en France. Le ministre Didier Guillaume répond aux questions d'Alexis Rosenzweig.
Nous avons la même position avec les Tchèques, qui est celle de dire nous avons signé le pacte de Madrid, qui est le groupe des 20 États européens qui veulent que le budget reste au niveau de UE27, c'est-à-dire qu'après le départ des Britanniques en euro courant, mais qu'on ne descende pas plus, la Commission aujourd'hui a fait une proposition qui n'est pas acceptable, que nous n'acceptons pas, et il va falloir travailler dans les années qui viennent, dans les semaines qui viennent, pardon, pour obtenir. Parce que on peut parler de tout ce qui se passera à l'intérieur de la PAC, de l'architecture, mais si nous n'avons pas le cadre financier pluriannuel suffisamment élevé, alors tout ce que nous pourrons faire, on n'arrivera pas à le faire. Donc aujourd'hui, sur la votre question précise sur le plafonnement, ben nous y travaillons. Nous voulons un premier pilier fort avec des aides directes assez fortes. Il faut aider l'agriculture, notamment les petits agriculteurs, à se développer. Aujourd'hui, la République tchèque est sur 133 hectares. La France est sur les 52 premiers hectares avec le paiement redistributif. Pourquoi? Tout simplement parce que 52 hectares, c'est la surface moyenne d'une exploitation française.
Et parce que les Tchèques ont une superficie moyenne plus importante.
Les Tchèques ont une superficie moyenne plus importante, bien sûr. C'est ce qui explique que nous ne soyons pas là à l'heure qu'il est sur cette position. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet sera d'atterrir et de voir quel plafonnement nous aurons le moment venu. Et surtout, que nous aidions l'agriculture à se développer et nous aidions par les paiements directs, par les paiements redistributifs, aux petits agriculteurs à s'en sortir.
Un des points qui a l'air important pour le ministre tchèque, comme pour vous, c'est une période transitoire pour ce prochain budget.
Alors évidemment qu'aujourd'hui, il faut raisonner. Je disais tout à l'heure, il ne faut pas faire de la bureaucratie froide, mais plutôt il faut faire des politiques humaines. Et aujourd'hui, il faut regarder l'évolution des choses. La PAC post-2020 n'est plus une PAC post-2020, elle sera 2021 ou 2022, nous verrons bien. Donc cette période transitoire, elle est pour nous indispensable. On ne peut pas passer d'un modèle à l'autre d'un seul coup. Et donc nous souhaitons, nous avec Miroslav Toman, avec les Tchèques et d'autres États membres, que cette période transitoire soit d'au moins 2 ans, le temps que les choses se fassent tranquillement. On ne peut pas mettre des secousses. Vous savez, c'est comme lorsqu'on conduit un bateau. C'est pas parce qu'on met un grand coup de barre que le bateau va tourner tout de suite. Il faut un certain temps. Bien, la politique agricole commune, l'Union européenne fonctionne de la même façon. Ce bateau, il avance. Nous allons réorienter des choses vers l'agroécologie, réorienter des choses sur le sanitaire, sur les risques, le réchauffement climatique. Mais ça doit se faire dans une transition douce.
Alors, il fait 36 degrés, je crois, aujourd'hui à Prague.
Et 46 à Paris.
En République tchèque également, où on parle de plus en plus de sécheresse, notamment dans les régions de Moravie. Est-ce que ça devient une priorité et un sujet inévitable dans ces rencontres bilatérales?
Mais bien sûr, parce que on sait très bien, mis à part quelques oiseaux de mauvais augure ou quelques climato-sceptiques qui sont vraiment des complotistes. On sait très bien que le dérèglement climatique est là, on sait très bien que le réchauffement climatique est là, mais plus que le réchauffement, c'est le dérèglement. C'est-à-dire qu'on a à la fois des fortes canicules, 36 à Prague, 46 à Paris, on a une sécheresse en France comme ici, mais on a une sécheresse en France qui est immense. Je suis en train d'obtenir des mesures dérogatoires de Bruxelles. Je suis allé sur le terrain toute la semaine.
Lesquelles, ces mesures dérogatoires?
Des mesures dérogatoires pour pouvoir faucher les jachères, pour pouvoir permettre de donner de l'alimentation, de rentrer de l'alimentation pour nos animaux. Sans cela, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des décapitalisations des cheptels. On va vendre de la viande alors que ce n'est pas le moment. On va emboliser le système économique. Et c'est tout notre système de polyculture élevage qui va être mis à mal. C'est pour ça qu'il faut des mesures exceptionnelles de fauchage des jachères pour les éleveurs, mais également de fauchage des jachères. J'essaye d'obtenir cela pour les céréaliers. On ne va pas laisser les moissons en lieu, on ne va pas tout laisser sur le sol sécher, alors qu'on pourrait s'en servir pour les animaux aussi. C'est très important. Je suis très heureux d'être venu ici voir Miroslav Toman, le ministre tchèque, avec lequel nous travaillons beaucoup, nous partageons beaucoup de sujets communs, beaucoup de combats communs, et notamment le fait que la République tchèque préside le groupe de Visegrad et que Miroslav Toman l'anime dans les mois qui viennent, va nous aider, va nous permettre d'aller de l'avant. D'abord, moi, je veux remercier la République tchèque pour le travail qu'elle fait en Europe, pour être un acteur important de l'agriculture européenne, et pour un sujet qui tient à cœur à l'Europe et au monde entier, c'est la victoire qu'ils ont obtenue contre la peste porcine africaine. C'est très important de le souligner, parce que ce qui s'est passé là, c'est essentiel et ça peut servir à d'autres. La France est encore indemne, mais nous investissons beaucoup, nous faisons beaucoup pour nous en passer. Si la peste porcine africaine continue à se propager en Europe, c'est la fin de nos élevages, c'est la fin d'une certaine idée d'agriculture.
Troisième épisode de notre série estivale incontournable sur les anciennes piscines du pays. Aujourd'hui, direction la charmante petite bourgade de Loulech, en Moravie du Sud, où se trouve la piscine ou l'Iboucher. Là, il est possible de piquer une tête dans son eau douce naturelle et de profiter d'un toboggan en pierre vieux de 70 ans, unique en son genre. Anna Kubista.
La piscine ou l'Iboucher se trouve dans un petit écrin de verdure à une demi-heure de route de la principale métropole de Moravie, Brno. Ce bassin naturel de 6400 m² a vu le jour un peu par hasard en lieu et place d'une ancienne carrière de pierre. Le maire de la commune de Loulech, Adam Majchrák, nous rappelle son histoire.
Koupaliště vzniklo zhruba před 80 lety a to tak, že zde byl kamenolom.
La piscine a vu le jour il y a environ 80 ans. Avant cela, il y avait une carrière de pierre qui était exploitée de manière quotidienne. Soudain, une source d'eau a jailli et en 3 jours a entièrement noyé la carrière. L'eau est montée très rapidement. J'imagine qu'il doit encore y avoir au fond de l'eau des restes de matériel qui en témoignent.
Velice rychle to nastoupilo, takže někde na dně budou ještě pozůstatky určité nějaké techniky, nějakých kolejí a tak dále.
Évidemment, ce bassin surgi de nulle part a tout de suite attiré les locaux qui ont commencé à venir s'y baigner. Dans les années 30, on décide d'aménager les abords de cette ancienne carrière et de créer ici une piscine publique. Son nom, ou l'Iboucher, est lié à une ancienne légende selon laquelle jadis la princesse mythique de l'histoire tchèque, l'Iboucher donc, venait faire boire les chevaux de sa suite à la source d'un bois environnant. Aujourd'hui, en raison de la sécheresse, les environs de ce point d'eau sont une importante source d'approvisionnement pour tout le site, comme l'explique encore Adam Majchrák.
En ce qui concerne l'eau, elle vient du sous-sol de cette source. Tous les ans à l'automne, nous vidons progressivement le bassin et l'eau revient toujours progressivement toute seule. Malheureusement, ces dernières années, nous souffrons de la sécheresse persistante et l'eau n'est pas montée. Nous avons dû compléter en faisant venir de l'eau des sources environnantes.
Deux plongeoires attendent les visiteurs aventureux et un petit bassin peu profond est aménagé à destination des plus petits. Une des attractions principales de la piscine de Loulech, notamment pour les enfants, est un toboggan en pierre unique en son genre, aménagé ici il y a 70 ans. Mais le toboggan n'est pas la seule chose qui occupera la descendance de ceux qui viennent ici en famille, comme le détaille encore Adam Majchrák.
De nombreux événements sont organisés tout au long de l'été, en général en soirée. Ce sont des événements organisés soit par la commune, soit par les restaurants environnants. En journée, il y a des journées spéciales destinées aux enfants. Il y a aussi un tournoi de volleyball, 52 ans au compteur, et d'autres activités sportives.
Alors évidemment, la fréquentation est liée à la météo. En général, quelques centaines de personnes viennent se baigner quotidiennement à Loulech. Mais quand le soleil est au rendez-vous, le nombre de visiteurs augmente de manière exponentielle.
La fréquentation dépend bien sûr des jours, mais un week-end de canicule, de ciel bleu avec 30 degrés au minimum, c'est la garantie de faire le plein. L'an dernier, grâce au ticket à la journée, nous avons dénombré plus de 2500 personnes par jour.
L'eau de ce bassin naturel est plus fraîche, autour de 21 degrés. L'avantage de l'eau froide étant aussi qu'elle s'entretient plus aisément.
Ici, on a jusqu'à 14 mètres de profondeur à certains endroits. Plus l'eau est froide, plus elle est de meilleure qualité. En plus, nous sommes sur de la roche, donc il n'y a pas de boue, juste de la pierre.
En ces temps de forte chaleur, cette fraîcheur est donc la bienvenue pour de nombreuses personnes, comme c'est le cas de cette dame de Vyškov, Jana. L'eau est en général bien froide tout l'été. En tout cas, quand il y a des journées caniculaires l'été, c'est vraiment mieux que les piscines où l'eau est à 29 degrés. C'est un vrai avantage. Nichée au creux de la forêt, la piscine est essentiellement connue des locaux, mais pour les touristes qui seraient de passage dans le coin, la région offre aussi de nombreuses possibilités de balades et d'excursions.
À Lulec, on trouve des choses intéressantes à voir. Par exemple, l'église Saint-Martin qui se trouve sur une colline et offre une belle vue sur le paysage alentour. La nuit, elle est même éclairée. Non loin de là se trouvait le château de Lulec. Il y a quelques anciens sites fortifiés et plusieurs sentiers balisés permettent de faire de jolies promenades. Récemment, la commune de Lulec a fêté les 670 ans depuis sa première mention dans les archives. Donc c'est un lieu d'histoire.
Voilà, et à noter enfin que la saison de la baignade commence en juin et s'achève en septembre.
Et comme chaque vendredi, place à la revue de presse d'Alena Gebeltova. Au programme aujourd'hui, les Tchèques ne veulent pas que les présidents se mêlent des partis politiques. Boris Johnson à la tête du Royaume-Uni, le suffrage universel direct remis en question par les députés de l'ODS et une balade dans les rues commerçantes les plus chères de Prague. Bonne écoute.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Tous les partis politiques dont les présidents tchèques ont été auparavant les chefs de file avant d'accéder à la tête de l'État se portent mal. Ce constat a été dressé dans un commentaire publié sur le site novinky.cz. Il montre qu'il existe en République tchèque un fossé profond entre la politique présidentielle et la politique partisane, son auteur précise.
Sur les trois présidents de la République que le pays a connus durant les 30 dernières années écoulées depuis la chute du régime communiste en 1989, les deux derniers, soit respectivement Václav Klaus et Miloš Zeman, ont été d'abord à la tête de deux importants partis politiques, le Parti civique démocrate, l'ODS, et le Parti social-démocrate, le ČSSD. La victoire de ces derniers aux élections législatives leur a permis de devenir Premier ministre. Toutefois, encore avant d'être élus chef de l'État, tous les deux ont connu de fortes mésententes avec leur parti, qu'ils ont fini par quitter pour de bon. Ils y ont pourtant conservé une certaine influence.
Aux dernières élections législatives de 2017, l'ODS a obtenu près de 11% et le ČSSD près de 7% des suffrages. La chute de ces deux partis est en grande partie à mettre sur le compte du lien psychologique qui existe entre ces partis et leurs anciens leaders et dont les nouveaux chefs n'ont pas réussi à se débarrasser tout à fait, estime le commentateur. Il remarque en outre qu'aucune tentative des trois présidents d'après novembre 1989, qu'il s'agisse de Václav Havel, Václav Klaus ou Miloš Zeman, de s'engager en faveur de telle ou telle nouvelle formation politique n'a été couronnée de succès. Plus encore, leur engagement a plutôt fait du mal au parti visé. Et de conclure.
Il semble que l'électeur tchèque n'aime pas que le président s'engage directement ou indirectement dans la politique partisane. Il chérit l'image d'un président tel un acteur au-dessus des partis.
L'élection mardi de Boris Johnson à la tête du Parti conservateur britannique a dominé la rubrique internationale des journaux et des sites tchèques aussi cette semaine. Le commentateur du site aktualnie.cz a par exemple écrit
« Son pays est secoué par la plus grande crise politique depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Brexit l'a déchiré en deux moitiés, irréconciliable, et même 3 ans après le référendum, les politiciens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les modalités de la sortie de l'Union européenne. Boris Johnson peut-il régler les choses, c'est difficilement imaginable, à moins qu'il cesse d'être un politicien irresponsable, tel que nous l'avons connu jusqu'ici, qui change d'idée d'un jour à l'autre et qui ignore beaucoup de choses. L'espoir qu'il en sera ainsi semble bien faible.
On ne peut pas savoir quel aurait été le résultat du référendum de 2016 sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne sans l'engagement populiste du charismatique Boris Johnson, écrit le commentateur du journal Hospodarska Noviny qui ajoute.
En ce moment chaotique où il devient Premier ministre, Johnson a enfin l'occasion de montrer qu'il est vraiment un leader capable et qu'il est prêt à mener à bien l'idée pour laquelle il s'est battu avec détermination jusqu'à la fin.
La victoire de cet homme controversé et chaotique, entouré de scandales politiques et sentimentaux, a de quoi inquiéter. De notre côté, il s'agit d'un politicien qui est un partisan déterminé de la démocratie libérale, des libertés et de l'Occident, qui n'hésite pas à s'opposer au Kremlin. C'est ainsi que Boris Johnson est présenté par le quotidien Danik N, qui constate également que rares sont ceux que le nouveau leader des conservateurs britanniques laisse indifférents.
La position du nouveau Premier ministre britannique n'est pas enviable car le Parlement a déjà à 3 reprises rejeté l'accord auquel l'Union européenne et le Royaume-Uni sont parvenus.
Peut-on lire dans un texte qui a été publié sur le site de l'hebdomadaire Respect qui a aussi indiqué.
La meilleure chose que Johnson puisse espérer, ce sont des modifications cosmétiques de l'accord existant. C'est un objectif qu'il voudra probablement atteindre à la Trump, prétendant que si l'Europe n'accepte pas ses concessions, il sera réellement prêt à claquer la porte sans accord. À Bruxelles et dans d'autres villes européennes, Boris est assez mal aimé.
L'auteur d'une note publiée dans le journal Les Dovanovine de ce jeudi rejette pour sa part une comparaison simpliste de Boris Johnson avec le président américain.
Johnson est doté d'un charme et d'un sens de l'autodérision que les Britanniques aiment bien. C'est un point qui l'éloigne tant de la personnalité narcissique de Donald Trump que du principal courant politique de l'Union européenne, qui est certes progressiste, mais qui est parfois trop conventionnel.
Abandonner l'élection présidentielle au suffrage universel direct et revenir au suffrage indirect. Pour le Parti civique démocrate ODS, il s'agit d'une éventualité qui mérite désormais d'être discutée. Rappelons que le suffrage direct a été introduit en République tchèque en 2013 et que c'est Miloš Zeman qui a été ainsi élu à 2 reprises. L'éditorialiste de l'hebdomadaire Respect a à ce propos remarqué.
Le suffrage direct comporte tout un éventail de risques, il est vrai, mais on ne saurait juger les futurs présidents à la lumière des critiques dont l'actuel président fait souvent l'objet. Force est de constater que le monde politique n'a de cesse de changer. Or, le fait de laisser au Parlement le choix du chef de l'État n'est pas la promesse d'avoir un président vertueux. L'initiative de l'ODS suppose que le choix parlementaire serait plus éclairé, moins passionnel, car nécessitant un consensus de l'ensemble du spectre politique. Mais cette réflexion est fausse, comme on a pu le voir par le passé.
Le commentateur estime que même dans des situations agitées, il est possible de choisir un président « normal » entre guillemets, qui respecte les règles et ce que les cas de l'Autriche et de la Slovaquie, par exemple, ont prouvé. Il est possible que chez nous aussi, l'élection au suffrage universel direct représente l'unique chance d'un changement positif, écrit-il avant de conclure.
Le choix du chef de l'État est aujourd'hui difficile, tant pour le système politique que pour la population, car le vote accentue sa polarisation. L'élection et son résultat reflètent l'état de la société. La manière dont elle se déroule n'y peut rien changer. Le départ des leaders d'aujourd'hui représente certes la promesse d'un changement. Celui-ci, cependant, n'est ni évident ni automatique.
Il n'est guère surprenant que les meilleures adresses pour les produits de luxe se trouvent à Prague. Une des récentes éditions du quotidien Mladá Frontanes a rapporté plus de précisions à ce propos.
Outre l'avenue Pajiska, c'est la rue Napříkopě dans le premier arrondissement de Prague qui représente l'adresse la plus courue. Cette dernière figure même parmi les 20 rues commerçantes les plus chères du monde. Elle doit en premier lieu son attrait à sa position stratégique au centre-ville qui reçoit quotidiennement des milliers de touristes. Par ailleurs, la zone comptant la rue Napříkopě et la place Venceslas est l'endroit le plus fréquenté de Prague. C'est elle que les promoteurs de marques de luxe choisissent lorsqu'ils souhaitent s'implanter dans la capitale tchèque.
Le journal remarque que des rues commerçantes attrayantes pour les touristes se trouvent également dans d'autres villes tchèques comme Český Krumlov ou Brno. En dehors de Prague, les marques de luxe sont toutefois prioritairement concentrées dans des centres commerciaux.
Mais Merci à Lena Gebeltova et ainsi s'achève notre émission, une émission réalisée aujourd'hui par Aleš Krupka et présentée par Colin Gruel. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet radio.cz/fr pour retrouver tous nos reportages et entretiens. Demain, on se retrouve pour notre programme culturel du samedi. Anna Kubišta s'entretient avec la journaliste tchèque installée à Marseille, Magdalena Rejškova. Et Václav Richter nous propose une rencontre avec l'écrivain Jindřich Mann. Bonne journée à tous, à demain, ahoy.